avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui vous donne la parole sur RFI. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h temps universel avec dans un instant notre débat du jour. Ce matin sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Avec d'un côté la confiance affichée des bailleurs de fonds publics. Ils promettent plus de 15 milliards de dollars de dons et de prêts sur 4 ans pour que le pays puisse appliquer son plan de développement. C'est deux fois plus que prévu. Le secteur privé en revanche se montre frileux. Ses engagements sont décevants au terme d'une réunion de deux jours à Paris. Alors dites-nous si vous comprenez ces différences. Positions et quelles doivent être les dépenses prioritaires du gouvernement ivoirien pour faire du pays un pays émergent. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 33 9 693 693 70. Vous pouvez aussi nous joindre par mail à appel@actu.rfi.fr ou bien sûr sur les réseaux sociaux, les pages Facebook et Twitter de l'émission. Avant cela, vos questions comme chaque jour, les réponses de nos spécialistes. On va parler ce matin du conflit entre Téhéran et Riyad autour du pèlerinage à la Mecque, de la présence de policiers chinois en Italie, mais d'abord de la lutte contre Boko Haram. Et ça, c'est avec Boubakari qui nous appelle de Garoua, dans le nord du Cameroun. Bonjour Boubakari.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs.
On écoute votre question.
Le sommet sur la sécurité contre Boko Haram s'est tenu à Abuja la semaine dernière. Je voulais savoir quels sont les bilans et aussi est-ce que les soupçons de corruption qui pèsent sur l'armée nigériane n'est pas un frein à cette lutte.
Merci Boubakari pour ces questions. C'était le second sommet international consacré à la lutte contre Boko Haram, deux ans après celui de Paris. Étaient réunis 8 présidents africains, plus le chef de l'État français, ainsi que des représentants de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne ou encore des États-Unis. C'est Christophe Boisbouvier qui a suivi ce sommet pour RFI. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Marie, bonjour Boubakari.
Voilà, vous êtes donc journaliste au service Afrique de RFI au téléphone avec nous pour tirer d'abord le bilan de ce sommet. Quelles annonces doit-on retenir, Christophe ?
Boko Haram a reculé, mais Boko Haram n'est pas encore vaincu. C'est le sentiment général de tous les participants au sommet samedi dernier. Il y a un an, Boko Haram tenait quelques 40 districts dans l'état du Borno, au nord-est du Nigeria, maintenant zéro. Il y a un an, il était impossible de circuler entre Kano et Maïdougouri, la capitale du Borno. Maintenant, c'est possible. Cela dit, Boko Haram est toujours là. Boko Haram multiplie les attentats suicides à partir de son repère, de la forêt de Sambisa au nord-est. Il y a quelques heures, l'une des 219 lycéennes de Chibok a été retrouvée. Saine et sauve, on vient d'en parler dans le journal avec Nicolas Champeau, mais deux ans après leur enlèvement, eh bien, les 218 autres sont toujours disparus. Bref, comme dit François Hollande, il ne faut pas baisser la garde contre le groupe terroriste le plus meurtrier du monde. D'où l'annonce samedi dernier à Abuja, alors pour répondre directement à votre question, Marie, d'une amplification du soutien militaire des Occidentaux à l'armée nigériane.
Les Américains vont vendre à un prix d'amis une douzaine d'avions militaires au Nigeria, mais il lui faudra aussi des drones, des blindés légers, du matériel d'écoute. La Grande-Bretagne commence à former des forces spéciales de l'armée nigériane. La France a déjà livré au service de renseignement nigérian quelques 2000 photos prises par des satellites et des avions français basés au Tchad. Des experts français doivent maintenant apprendre à leurs homologues nigérians à analyser, à lire ces images satellites.
Alors il y a eu donc des annonces de solutions militaires, mais aussi d'aide au développement. Hein. Ça fait partie des paramètres hein, de ce conflit.
Oui, tout à fait. Samedi dernier, Philip Hammond, le chef de la diplomatie britannique, a eu cette formule. Les efforts militaires ne suffisent pas. Il faut gagner les cœurs et les âmes de ceux qui sont terrorisés par Boko Haram. Car il s'agit du combat d'une génération contre un démon qui nous détruira tous si nous ne le détruisons pas. Vous voyez, tout le monde est conscient qu'il est urgent de développer cette région déshéritée du nord-est du Nigeria. Le président Buhari évalue à quelque 960 millions d'euros la somme nécessaire au développement de cette région et à l'aide au retour des quelque 2 millions de personnes déplacées. Les Britanniques sont les plus généreux avec une aide de quelque 57 millions d'euros. Les Français s'engagent à lancer un projet de l'Agence française de développement qui sera spécifique à la région du lac Tchad, limitrophe du nord-est du Nigeria. Et sur les 3 ans qui viennent, l'Union européenne promet de donner quelque 1 700 000 euros d'aide humanitaire et de programmes de développement.
Alors quelques mots maintenant, Christophe, sur un projet de défense entre Paris et Abuja et puis les contreparties engagées par le Nigeria en contrepartie de ce projet de défense, cette coopération.
Oui, en effet, une lettre d'intention a été signée entre François Hollande et Mouhamadou Bouhari, c'était samedi dernier à l'issue de leurs 2 heures d'entretien, et tout cela en vue du paraphe d'un accord de défense dans les mois qui viennent. Concrètement, 17 actions de coopération militaire sont prévues, plusieurs officiers et experts militaires français sont attendus au Nigeria. Mais le problème, c'est que Paris ne veut pas qu'en cas de problème quelconque, eh bien, l'un ou l'autre de ses ressortissants soit jugé au Nigeria. Paris est donc en train de négocier avec Abuja un accord d'immunité judiciaire pour les personnels français qui seront en mission au Nigeria. C'est le type d'accord qui existe déjà au sein des pays de l'OTAN, entre les différents pays de l'Organisation Atlantique. En contrepartie, eh bien, le Nigeria bénéficiera donc d'une nouvelle expertise.
Alors on va passer, si vous voulez bien Christophe, à la deuxième question de notre auditeur de Garoua, Boubacari. Il faisait allusion à des soupçons de corruption et de non-respect des droits de l'homme de la part de l'armée nigérienne. Un mot sur ces soupçons, que reproche-t-on aux militaires nigérians ?
Ben, ce qui a évolué, justement, c'est depuis un an, depuis l'époque Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria, c'est un effort pour plus de professionnalisation et de discipline et de présence sur le terrain à l'intérieur de l'armée nigériane, mais il y a fort à faire, à la fois sur le plan opérationnel et puis sur le plan de la bonne gouvernance. Vous vous rappelez, Marie, de la grosse gaffe qu'a commise le Premier ministre britannique il y a quelques jours en apporté avec la reine d'Angleterre. Le Nigeria est un pays fantastiquement corrompu. Il y avait un micro qui traînait et qui a révélé le dialogue entre les deux personnes. Ce qu'il faut donc, c'est une professionnalisation de l'armée nigériane et aussi une meilleure coordination entre les 4 armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun. La coordination est meilleure que l'année dernière. On l'a vu notamment je pense que ça va intéresser tout particulièrement Boubacari, ce raid de l'armée camerounaise à une dizaine de kilomètres à l'intérieur du Nigeria. C'était la semaine dernière, un raid qui a permis la capture de quelques chefs locaux de Boko Haram et la neutralisation de plusieurs dizaines de combattants de la secte, mais il reste beaucoup à faire. La force multinationale mixte de quelque 8500 soldats de ces 4 pays, cela reste très virtuel. Et samedi dernier, le Tchadien Idriss Déby a lancé « Attention, dans les 3 mois qui viennent, va arriver la saison des pluies, toute la région du lac va être sous les eaux jusqu'à la fin de l'année. Si nous ne faisons rien dans les 3 mois qui viennent, eh bien, il faudra tout reporter à 2017. »
Merci beaucoup Christophe Boisbouvier d'avoir été en ligne avec nous pour répondre aux questions de Boubacari, notre auditeur qui nous appelait de Garoua, dans le nord du Cameroun. Retour au standard pour accueillir cette fois Ousseni qui nous appelle de Ouagadougou au Burkina Faso. Bonjour Ousseni.
Bonjour Marie.
On écoute votre question sur l'actualité.
Ok. J'ai appris que les Iraniens ne pourront pas accomplir les pèlerinages obligatoires à la Mecque. Pourquoi l'Iran estime que les conditions ne sont pas réunies? Et cette décision a-t-elle une conséquence sur les relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite?
Merci Ousseni pour ces questions. Il faut peut-être d'abord rappeler que ce grand pèlerinage en septembre aura lieu un an après une gigantesque bousculade qui avait fait près de 2300 morts, dont 450 Iraniens. Et les autorités iraniennes ont en effet annoncé la semaine dernière que les pèlerins iraniens ne pourraient pas s'y rendre faute d'accord avec Riyad. On va voir ce que cela signifie avec vous, Nicolas Falaise du service international de RFI. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Les conditions ne sont pas réunies, c'est ce que disent les autorités iraniennes. Et de quelles conditions parle-t-elle ?
Alors, techniquement, l'Iran demandait la délivrance de visas pour se rendre à la Mecque, de visas saoudiens, donc, sur le territoire de la République islamique d'Iran. Et aussi, l'Iran demandait des mesures liées au transport et à la sécurité de ses pèlerins. Malgré la rupture récente de leurs relations diplomatiques, on va en reparler sans doute, l'Iran et l'Arabie saoudite menaient ces négociations techniques en Arabie saoudite ces dernières semaines pour tenter d'organiser le pèlerinage à la Mecque, très important pour les fidèles musulmans. Ce sont ces négociations négociations qui ont échoué. Et effectivement, il n'y aura donc pas de pèlerins iraniens à la Mecque en septembre, à l'époque du grand pèlerinage annuel. On note que les deux pays se rejettent mutuellement la responsabilité de cet échec. L'Iran parle d'un sabotage venant des Saoudiens. Et en face, le Royaume d'Arabie Saoudite assure que c'est le gouvernement iranien qui a refusé de signer l'accord qui devait permettre d'organiser ce pèlerinage des Iraniens.
C'est pas la première fois que le pèlerinage de la Mecque est source de tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Absolument. En 1987, des affrontements entre pèlerins iraniens et forces de sécurité saoudiennes avaient fait des centaines de victimes. Et à la suite de ce drame, les relations diplomatiques entre les deux pays ont été rompues pendant 4 ans, jusqu'en 1991. Plus récemment, vous l'évoquiez, Marie, la bousculade meurtrière de l'année dernière, en septembre, plus de 2000 morts, dont 450 pèlerins iraniens, avait suscité un nouvel échange diplomatique très, très, très vif entre les deux pays. Téhéran avait dénoncé l'incompétence de Riyad pour gérer l'accueil des pèlerins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'inscrit finalement dans une rivalité politico-religieuse. Le roi d'Arabie Saoudite se fait appeler le gardien des deux mosquées, en référence aux deux lieux saints de l'islam qui se trouvent sur le sol du royaume, la Mecque et Médine. En face, la République islamique, issue de la révolution iranienne de 1979, conteste ce qu'elle considère comme une mainmise de la famille royale saoudienne sur ces lieux saints pour les musulmans.
Notre auditeur Ousseini de Ouagadougou s'inquiétait des conséquences diplomatiques de cette brouille entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Alors, j'aurais tendance à plutôt dire que cette affaire est une conséquence de la brouille qui existe déjà. Les relations ne sont pas simples depuis toujours entre la République islamique et l'Arabie Saoudite. L'Iran perse et chiite, l'Arabie Saoudite arabe et sunnite, relations devenues encore plus tendues ces dernières années. On sait que les deux pays s'opposent dans la région dans toutes les crises. La Syrie, le Yémen, la crise politique au Liban. Et puis l'Arabie Saoudite voit aussi d'un très mauvais œil le retour de l'Iran sur la scène régionale à la faveur de l'accord sur le nucléaire qui a été signé il y a près d'un an. Début janvier, ce face-à-face qui était déjà tendu entre l'Iran et l'Arabie Saoudite s'est encore durci. Il y a eu une vague d'exécutions en Arabie Saoudite et parmi les personnes décapitées, un dignitaire religieux saoudien mais chiite, le cher Nimr al-Nimr. Sa mort, son exécution a provoqué une vague de colère, des manifestations dans le monde chiite, notamment des manifestations en Iran. Et c'est durant l'une de ces manifestations que l'ambassade d'Arabie Saoudite à Téhéran a subi d'importantes dégradations. Cela a été condamné par les autorités iraniennes. Néanmoins, c'est à ce moment-là que l'Arabie Saoudite a rompu ses relations avec l'Iran. Les relations sont toujours rompues et les négociations sur le pèlerinage à la Mecque étaient organisées en dépit, parallèlement à cette rupture officielle des relations diplomatiques. Et on voit bien qu'elles n'ont pas abouti, que ce terrain religieux n'a pas permis de rapprochement et qu'il a finalement nourri cette dualité, cette opposition entre les deux puissances régionales.
Alors que le terrain religieux pourrait être justement un terrain de rapprochement entre Riyad et Téhéran.
Et c'est finalement le cas avec d'autres sujets. Prenons un exemple qui est celui de la lutte contre le djihadisme et le groupe État islamique. Les deux pays, Arabie Saoudite et Iran, considèrent que la lutte contre les mouvements radicaux djihadistes font partie de leurs priorités sur leur territoire et aussi sur la scène régionale. On pourrait très bien imaginer qu'à un moment, les deux pays définissent cet ennemi commun comme un terrain de coopération. Aujourd'hui, on voit bien que ça n'est pas le cas, qu'il y a une rivalité qui empêche Riyad et Téhéran de se saisir de sujets communs, politiques ou religieux ou autres, pour tenter de surmonter cette rivalité qui, encore une fois, structure l'ensemble des crises de cette région.
Et pour ajouter à vos propos, juste un chiffre, en 2015, c'est quelque 60 000 Iraniens qui s'étaient rendus à la Mecque pour le grand pèlerinage. C'est donc aussi une grosse perte finalement pour l'Arabie Saoudite. Ce critère-là, cette question économique rentre en jeu aussi?
Absolument. On voit bien que augmenter le flux de pèlerins vers les lieux saints, c'est une préoccupation centrale en Arabie Saoudite. Le pèlerinage, le grand pèlerinage et le petit pèlerinage rapportent chaque année plusieurs dizaines de milliers, de milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. C'est même la deuxième source de revenus du royaume après le pétrole. C'est donc il y a donc aussi un aspect économique extrêmement important.
En tout cas, on suivra bien sûr de près ce grand pèlerinage de septembre, donc un an après cette gigantesque bousculade qui avait fait, donc on le rappelle, 2300 morts. Merci Nicolas Falaise d'avoir été avec nous pour répondre aux questions d'Ousseni qui nous appelait de Ouagadougou au Burkina Faso. Il est 8h25 en temps universel. Une nouvelle question sur l'actualité, elle nous est posée par Roger qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Roger.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute Roger.
J'avais appris que des policiers chinois vont patrouiller à Rome et à Milan pour assurer les touristes chinois. À ce sujet, j'ai des inquiétudes. De qui vient la demande et comment vont-ils assurer la sécurité des touristes? Est-ce que d'autres villes européennes sont tentées d'imiter l'Italie? Merci.
Alors, merci Roger pour ces questions. La ligne n'est pas très bonne avec Lomé, donc je vais juste reprendre un petit peu votre question. Vous interrogez sur la présence de policiers chinois à Rome et à Milan, des policiers qui sont censés rassurer les touristes chinois. Et c'est Stéphane Lagarde du service Asie de RFI qui nous a rejoint pour vous répondre. Bonjour Stéphane.
Bonjour Marie, bonjour Roger.
Alors Roger s'interroge sur la provenance de l'idée de ce projet. Qui en a fait la demande ?
Alors les deux pays, hein, Roger. D'abord évidemment Pékin. Il y a 3 millions, un peu plus de 3 millions d'ailleurs de touristes chinois qui vont en Italie chaque année, particulièrement au printemps. Et ces touristes sont inquiets parce que comme ils sont très nombreux et comme ils vont dans les sites les plus touristiques, ils sont souvent victimes des pickpockets, des voleurs à la tire. Alors ils s'inquiètent. Alors du coup, eh bien Pékin a demandé à assurer la sécurité de ces touristes. C'est le chef de la police des relations internationales de la police chinoise qui le dit. Il dit, je cite cette phrase, il y a 700 ans, Marco Polo, donc l'Italien, affrontait 1000 dangers pour arriver en Chine. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire que les touristes chinois vivent la même chose en Italie. Donc la Chine demande à ce que ses concitoyens soient protégés quand ils sont touristes en Italie, dans les lieux touristiques. Et puis aussi, la Chine aime bien les accords bilatéraux. Elle préfère ça à faire un accord global avec l'Europe. Elle aime bien traiter chaque pays comme ça. Donc là, c'est l'Italie. Et puis une demande de Rome aussi très forte. Rome qui a besoin de ses touristes pour son économie. Tous les pays européens aujourd'hui ont besoin de ses touristes. J'allais dire, ça a un peu changé quand même la vision de l'Europe sur les Chinois. On est passé, si vous voulez, si vous me pardonnez l'expression, du péril jaune au portefeuille jaune. Si vous voulez. Donc on a besoin de ces touristes, donc Rome est prête à tout et donc a décidé de faire ses patrouilles communes pour rassurer encore une fois les compatriotes chinois, enfin pour que ces Chinois qui parlent parfaitement l'italien, je ne sais pas s'ils aiment la pizza, mais en tout cas ils parlent parfaitement l'italien, ces policiers chinois, soit avec les carabiniers là. C'est le ministre de l'Intérieur, le mal nommé Angelino Alfano, qui a, parce qu'il n'a rien à n'ange cet homme, mais en tout cas il a souhaité étendre l'expérience à d'autres villes en Italie, donc ça a marché pendant 10 jours, il veut que maintenant ça s'étende, il veut aller jusqu'au bout de l'expérience, Angelino, puisqu'il demande désormais que soient envoyés des carabiniers italiens pour patrouiller dans les rues du vieux Pékin, par exemple, et sur le Bund, vous savez, la fameuse promenade de Shanghai, en Chine.
Une petite précision, quand même, c'est quelques policiers chinois en Italie, on ne va pas parler non plus d'une grande brigade.
C'est vraiment symbolique, vous avez raison, Marie, 4 policiers, on est quand même loin des 3 millions de touristes, vous voyez, ils ne pourront pas s'occuper de tout le monde. Effectivement, la deuxième question de Roger, c'était comment assurer la sécurité de ces touristes en participant donc à ces des actions judiciaires, mais surtout, c'est encore une fois symbolique, en patrouillant en binôme, un jingsha, c'est comme ça qu'on appelle les agents de police en mandarin, et un carabinier, tous les deux ensemble qui patrouillent dans les endroits les plus touristiques, le Colisée, la Piazza Vittorio à Rome, il y en a d'autres, mais le Duomo à Milan où il y a une importante communauté chinoise qui vient de Shanghai d'ailleurs, qui est très importante de commerçants. Donc ils vont patrouiller ensemble.
Et ils porteront l'uniforme de la police chinoise pour être reconnus, ils ne se cachent pas,
voilà, tout à fait.
Au contraire. Alors est-ce que d'autres villes européennes pourraient être intéressées par ces binômes?
Oui, parce que évidemment on attend ces touristes, le Portugal, on parle de l'Espagne aussi, et puis il y a la France quand même. On sait qu'à l'été 2014, Bernard Cazeneuve, donc le ministre français de l'Intérieur, avait lui aussi été attiré par ce projet. On avait parlé de patrouilles de policiers chinois et de policiers chinois et français, donc par exemple au Sacré-Cœur, vous savez, dans les endroits touristiques aussi en France, où les touristes chinois, ils sont un peu moins. Il y a 1,5 million de touristes chinois en France, ils sont un peu moins, mais ils sont aussi victimes, comme tous les touristes parfois, de vols à la tire. C'est pas tout le temps, mais enfin ça arrive, de pickpocket. Donc on avait réfléchi à ça. Puis des parlementaires s'étaient opposés à cette idée au nom de la répression répression de Tiananmen, hein, ça remonte à un moment, mais en disant que quand même la Chine était toujours un pays autoritaire, donc il ne voulait pas de ces patrouilles. Et finalement, Bernard Cazeneuve avait fait machine arrière, avait reculé sur cette idée. Bernard Cazeneuve, le ministre français des Affaires étrangères, mais on pourrait y revenir quand même. Hein. On pourrait y revenir parce qu'il y a eu les attentats de Paris depuis, le nombre des touristes chinois a reculé, Marie, et donc on a besoin de ces touristes chinois. Donc peut-être qu'on va revenir à cette idée, peut-être qu'un
et
jour...
Et on en reparlera peut-être ensemble. Voilà. Merci Stéphane Lagarde, restez avec nous. Juste après le journal, notre débat.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.